Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada.
France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérade.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette librairie francophone estivale, ouverte à toutes les cultures, dans toutes les disciplines. Voici le sommaire. Livre de poche pour l'été, entretien avec un grand auteur, séquence musicale, reportage quelque part dans le monde. Nous allons vous faire voyager à travers les cultures francophones. David Fuenquinos a carte blanche cette semaine, rédacteur en chef de notre séquence, le Club Francophone. Il a invité François-Henri Désérable, un jeune auteur révélé en 2015 avec son roman Évariste. Découverte, coup de gueule, engagement et débat autour de Romain Gary aussi. David Fuenquinos a concocté son programme en toute liberté. Le grand entretien, ce sera avec Édouard Glissant et un hommage de Jean-Marie Gustave Le Clésio. Nous ferons aussi escale à Genève, dans le quartier des Paquis, avec l'écrivain suisse d'origine camerounaise Max Loeb. La québécoise Geneviève Morissette jouera un titre au piano dans nos studios. Sans oublier notre séquence humour inédite avec un humoriste francophone.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Guérade.
Et on commence avec un livre de poche pour votre été. Chaque semaine, nous vous proposons un entretien avec un auteur qui a participé à la librairie francophone lors de la sortie de son livre. L'actrice Sylvie Testu avait publié « C'est le métier qui rentre » aux éditions Fayard en 2014. Son roman est sorti en poche sous le titre « Arrête ton cinéma ». Retour sur un entretien plutôt honnête et intègre. Bonjour Sylvie Testu.
Bonjour.
Vous nous emmenez dans le monde du cinéma avec votre nouveau roman, un monde que vous connaissez bien, dont vous dressez d'ailleurs un portrait pas très glorieux. Nous verrons cela dans quelques minutes. Alors vous racontez l'histoire d'une actrice qui souhaite réaliser son premier film, situation que vous avez connue pour La vie d'une autre, film franco-belge d'ailleurs. Votre personnage tombe sur les pires producteurs qui soient, des méchants. En tout cas, c'est leur réputation, mais elle décide de leur faire confiance. Qu'est-ce qui l'attire vers eux?
Je crois que ce qui l'attire, c'est surtout le caractère un peu passionné des producteurs. C'est cette envie d'y aller coûte que coûte et les gens qui vous promettent beaucoup vous font rêver. De toute façon, le cinéma, c'est un métier où finalement, ça a à voir avec la passion. Donc c'est un métier où on ne peut pas commencer à faire du cinéma en ayant un peu des voyants allumés. Le cinéma, c'est pour ça que c'est UBS, c'est que c'est la seule entreprise que je connaisse où on fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose alors qu'on n'en a pas le financement. Et vous ne savez pas si vous arriverez ou non à vos fins.
Donc quand on a confiance en vous, du coup, on plonge, quoi.
C'est ça.
Alors c'est vrai qu'on suit le parcours du combattant, hein, de votre personnage, jusqu'au tournage. Mais ce qui est intéressant dans votre récit, Sylvie Testu, c'est les petites histoires parallèles. Ce monde du cinéma que vous décrivez comme étant impitoyable, on peut même lire un peu entre les lignes, s'apercevoir que beaucoup de choses vous agacent dans ce milieu. Par exemple, les actrices qui exigent dans un restaurant, mais un peu partout, qui comptent aussi qu'on leur offre leur consommation, la possibilité de s'habiller gratuitement, tout ça, voilà, tout ce système-là. C'est un peu vrai, ça.
Oh oui,
ça vous énerve.
Alors, c'est pas généralisé à toutes, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de ça. On demande beaucoup aux actrices, alors en même temps, on leur prête des affaires. Mmh. Et moi, j'avais écrit dans un premier roman que c'était vraiment compliqué. Moi, on m'avait retiré des boucles d'oreilles entre la salade et le steak en me disant, bon, écoute, je t'ai prêté les boucles d'oreilles, maintenant, il faut que je rentre chez moi. Donc, j'avais fini avec les trous vides. Donc, c'est insupportable. C'est vraiment le conte de fées. Et vous savez, vous n'arrivez pas à perdre la godasse parce que vous avez les pieds gonflés. Enfin, c'est affreux. C'est un conte de fées qui finit mal.
Il y a pire quand même.
Oui, hein. Oui, il y a pire.
Justement, la psychologie des personnages avec les différents types d'acteurs. On les classe en catégorie, Sylvie Testu. Les agents sélectionnent d'ailleurs les projets en fonction de la notoriété de leurs protégés. Du coup, parfois, vous ratez des films terribles parce qu'on ne vous les propose pas. Et il y a donc les premières catégories, les stars très demandées, les secondes catégories en perte de vitesse, et puis il y a les mortes de faim qui peuvent, elles, revenir très vite en haut de l'affiche. Vous êtes dans quelle catégorie, vous, Sylvie Testu?
Je pense que je serai dans la seconde, c'est-à-dire pas dans tout à fait tout en haut. Ouais. Parfois, il se trouve qu'ils ont déjà proposé le film à quelqu'un d'autre, mais pas non plus les mortes de faim. Donc, je
vous
pense
n'avez
que
jamais été morte de faim?
Bah, écoutez, pour l'instant, non, donc j'en suis assez ravie, mais c'est affreux. En fait, c'est une façon de mettre des mots assez lourds et assez fort pour qu'on comprenne assez bien quel est le cynisme avec lequel on traite les gens qui sont en difficulté dans ce métier. C'est-à-dire que le succès donne raison, l'échec donne tort. Et c'est comme ça, et c'est comme ça que se comporte la profession. Et c'est affreux parce que on rit parfois de, en groupe, hein, de quelqu'un qui n'a pas tourné depuis longtemps. Mais la pauvre, elle est déjà punie, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais je crois que c'est quelque
part... Et vous rentrez dans le jeu, vous, des fois ?
Une angoisse. J'espère que non. Mais en revanche, je crois surtout que c'est parce que ça angoisse. Vous voyez, c'est un peu comme quand quelqu'un est malade, on dit « Oh là là, ne m'approche pas parce que tu vas me donner ta maladie. » C'est affreux.
Alors vous êtes très honnête, Civitestu, souvent. Je vous ai côtoyé plusieurs fois pour des entretiens. C'est vrai que vous êtes toujours honnête, vous êtes à fond comme ça dans les sujets, vous dites les choses. Et dans le livre aussi, il y a les hommes aussi avec qui ça marche, cette histoire de catégorie. Vous écrivez, alors on va voir si vous êtes honnête jusqu'au bout, vous écrivez qu'il y a des exceptions chez les hommes. Par exemple, cet acteur au physique de héron cendré, ni beau, ni émouvant, même pas drôle, qui n'apprend jamais son texte, se comporte comme s'il avait 2 Oscars, 3 prix d'interprétation, un contrat chez Paco Rabanne, nul, mais qui remplit pourtant les salles depuis 25 ans.
Eh bien, quoi, il faut que je vous dise de qui s'agit, c'est ça ?
C'est pas notre genre, mais bon.
Non, en fait, c'est pareil, ce sont plusieurs personnes, j'avais fait un peu ça dans Gamine, le livre que j'avais écrit sur ma famille. Oui. C'est-à-dire c'est plusieurs personnes que je mets en une. J'ai pas envie de description, je me pose pas en tant que personne qui fait de la littérature.
Genre. Vous couvrez, quoi.
C'est plus de... Oh, si je me couvrais, je pense que j'irais moins droit dans les phrases.
Bah, si vous dites qu'il y a plusieurs personnages, vous couvrez.
Oh non, c'est juste que je pense que j'essaye de pas faire des livres de 900 pages.
Est-ce que c'est un film d'hypocrite ? Est-ce que c'est un film... Tiens, lapsus. Est-ce que c'est un milieu d'hypocrite, ce milieu-là ? Parce que vous dites à un moment que c'est le jeu, ça. C'est comme ça, le cinéma. Je te prends pour un con, tu me prends pour un con, on se prend pour des cons. C'est drôle, les films se montent, ne se montent pas. T'es en haut de l'affiche, t'es en bas, t'y es plus du tout, puis tu reviens.
Je vais vous dire pourquoi c'est pas un milieu d'hypocrite, c'est que quand les gens ne vous aiment pas, ils aiment bien vous le faire savoir. Et donc, c'est un milieu violent. Mais ça n'est, je crois pas que ce soit vraiment un milieu d'hypocrite, parce que j'ai vu un jour, j'étais assez fascinée dans un square, comment 2 mères de famille, et je peux vous dire qu'elles pouvaient pas se blairer, qui se disaient bonjour avec un sourire. C'est impossible, c'est entre 2 acteurs, parce qu'on voit immédiatement que le deuxième peut pas le voir. Donc en fait, on se dit bonjour. Ça va ? Très bien. Hop, et ça passe de l'autre côté. Et si tout le monde peut voir que vous n'aimez pas cette personne, c'est encore mieux. Vous voyez, c'est plutôt l'inverse qui se produirait dans les troubles un peu négatifs qu'il peut y avoir. Donc c'est plutôt un milieu violent qu'un milieu d'hypocrite, crois.
Arrête ton cinéma de Sylvie Testu est paru en poche au Livre de Poche. Avant de partir à Genève, dans un quartier très cosmopolite et très ouvert sur le plan sexuel, voici, et sans transition bien sûr, l'Impératrice avec un extrait de Sultan des Îles dans la librairie francophone estivale.
Talons piqués, cuir de star, cheveux pressés, blonds, trottoir.
Sans un regard,
L'Impératrice avec Sultan des Îles sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Après le monde impitoyable du cinéma, on vous emmène dans la frénésie de Genève avec un quartier très animé sur tous les plans. Le quartier des Paquis est le lieu de vie et de sortie de l'écrivain d'origine camerounaise Max Loeb. Son roman 39 rue de Berne se déroule entièrement dans les rues de ce quartier. Visite guidée et retour sur ce livre aux connotations autobiographiques. Bonjour Max Loeb.
Bonjour. Là nous sommes en train de traverser la rue de Lausanne pour attaquer la rue des Alpes. Celle qui nous mène au lac Léman. Voilà, le lac, il est juste en face de nous, de l'autre côté. Et le quartier des Paquis, c'est ici que ça commence.
Voilà, le quartier des Paquis, un quartier très important, car lorsque vous avez publié votre premier roman, 39 rue de Berne, dont nous avions parlé d'ailleurs dans cette émission il y a quelques années maintenant, eh bien, tout se déroulait ici, à Genève, dans le quartier des Paquis, avec un personnage qui vivait avec sa maman, prostituée. Ce personnage était homosexuel, enfin, il avait beaucoup de problèmes aussi pour s'intégrer dans la société.
Les problèmes, ils existent toujours. Hein. J'entends la question homosexuelle, c'est une question sempiternelle. Après, par rapport au Paquis, l'homosexualité au Paquis, c'est pas un tabou. Ah non, non. On a même des travestis qui se prostituent en route. Ils ne sont pas lynchés, non. Et des fois, depuis la fenêtre de mon appartement à la rue Sismondi que nous allons voir tout à l'heure, je vois des clients, j'allais dire, plutôt haut de gamme, banquiers, assureurs, qui vont vers des travelots.
Alors, c'est le quartier un petit peu sombre de Genève. On a l'impression que Genève est une ville très bourgeoise, avec des banques, le lac. Sauf que au milieu de tout ça, il y a ce quartier des Paquis très étonnant parce qu'on est à la fois entre la gare Cornavin, la gare où tous les trains arrivent, notamment de l'étranger, et le lac avec le jet d'eau qui
Exactement.
Est juste en bas.
Je ne dirais pas que c'est le quartier sombre de Genève. Je dirais simplement que c'est les Paquis et puis il y a Genève. Voilà la rue de Berne.
Ah, voilà la rue de Berne, donc qui a donné le titre à votre premier roman. Oui, on est au vert. Le vert clignote, vite.
Voilà, la rue de Berne, elle ne commence pas ici, mais c'est à partir d'ici que la rue de Berne devient chaude.
Et un côté multiculturel, puisque là, on a un restaurant africain avec une boutique africaine. Juste en face, les parfums de Beyrouth, le bar club, les kebabs juste devant.
Numéro 23, c'est là où je vivais lorsque j'écrivais 39 rue de Berne. Vous savez, il y a un réseau de trafic de femmes depuis l'Afrique pour l'Europe. On retire le passeport à la bonne dame à qui on fait croire que voilà, à Genève, elle sera danseuse, elle sera serveuse. Et puis quand elle arrive sur les lieux, non. Elle est pimentière, comme on dit au Cameroun. Ça veut dire qu'elle vend son piment dans une pimenterie.
Qu'est-ce que c'est le piment ?
Le piment, c'est le vagin.
Ah voilà.
Et en fait, ici, la prostitution, comme en Suisse, de manière générale, la prostitution, c'est un métier légal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de honte à être prostituée. Elles sont déclarées à la police des mœurs et la police a le devoir de les protéger. Et en fait, ce milieu, c'est un milieu de solidarité.
Comment ça se fait, Max Loeb, que vous connaissez aussi bien le milieu des prostituées, ce cercle fermé, comme vous le dites ? On a l'impression que vous donnez une part de vous dans ce livre. On s'était posé la question, d'ailleurs, je me souviens, de savoir si c'était un peu de votre histoire, un peu de votre vécu.
Alors, c'est un peu de mon histoire en ce sens que je vis au Paquis et que je vois tout ce qui s'y passe.
Vous êtes arrivé à l'âge de 18 ans du Cameroun, parce que vous êtes né au Cameroun.
Mais pas pour Genève. Je me suis installé à Lugano. Lugano qui est une ville un peu plus confidentielle, même s'il y a aussi des pimentières à Lugano, mais elle se trouve dans un tout autre quartier. Vraiment au pied de mon immeuble, il y en a plusieurs. Et à chaque fois qu'elles me voient, elles me disent « Alors, petit frère, comment tu vas ?» Et puis moi, je leur demande « Ça a été la journée, combien de clients ?» Et puis on rigole. Et du coup, il y a beaucoup de ragots. Et que de me retrouver plongé comme ça, catapulté dans ce milieu, je me suis dit « Mais je ne peux ne pas raconter ça, quand même.
Oui, c'est ça, donc c'est la communauté, c'est la diaspora, comme on dit.
C'est la diaspora,
qui vous a incité, finalement, à côtoyer tous les Camerounais du quartier, et y compris les prostituées. Allez, changeons de rue parce que c'est très bruyant là, ça commence à s'agiter un peu, le quartier des Paquis ici à Genève. On traverse les rues, hein. On est comme ça au cœur de la ville de Genève, entre la gare Cornavin et puis le lac qui est juste en face et ce fameux jet d'eau que vous connaissez tous. Alors là c'est très étonnant parce qu'on passe, je peux pas m'empêcher de décrire parce qu'on est devant un sex shop, jusque là bon tout va bien.
Et le... qu'on fasse un tour à l'intérieur
Non, vous avez envie, vous?
Bah, mais je sais pas, mais ça m'arrive, hein. Alors, j'entends, j'ai rien à cacher, hein. Faire des tours dans des sex shops.
Il s'appelle le Mea Culpa.
Oui.
Et on a une grande vitrine devant nous avec des canapés, des coussins et des filles.
En fait, ce sont des vitrines d'exposition.
C'est ça.
Parce que vous savez, et je propose qu'on se déplace pour pas mettre mal à l'aise les filles.
Allons-y. C'est très étonnant quand même, hein, de voir des filles en vitrine, assises sur des chaises.
Mais quand on va à Amsterdam, moi ça m'étonne pas. Moi ça m'étonne pas. J'ai toujours considéré que la prostitution c'est un métier comme un autre.
Bonjour, bonjour. Elle me fait signe de venir, mais.
Elles sont très sympas. Elles sont très sympas.
Oui, bah oui.
J'ai toujours considéré que la prostitution c'est un métier comme un autre. C'est dommage lorsque la personne y est forcée. Et il arrive, je crois, que dans la grande majorité des cas, ce sont des filles qui n'ont pas vraiment eu le choix. Mais si elles décident de le faire, alors pourquoi moi, qui suis-je moi pour leur faire des leçons de morale? Si on mettait sur votre antenne ma propre vie, je pense que les gens tomberaient de leur chaise.
Ah bon, à ce point-là?
Bah,
on en a raconté des choses sur
vôtre,
vous, Max.
Et la vôtre?
Ah, moi ça va, hein, franchement, vous pouvez y aller. Je suis nickel.
Non mais écoutez...
Non, vous ne croyez pas?
Vous me connaissez un tout petit peu, on a fait quelques interviews.
Oui.
Et dans mes livres, ça se voit, je suis quelqu'un de complètement libre. Je suis,
un écrivain peut partir en vrille, peut dire plein de choses, sans pour autant vivre sa vie comme un patachon.
Non, je ne suis pas fou. J'ai pas besoin de raconter des choses qui ne correspondent pas à ce que je suis. Je suis libre, je fais ce que je veux, que ce soit du piment ou du plantain. Tout me va, je m'en fiche, j'ai pas de problème.
Voilà, on arrive sur le jet d'eau, donc Max Loeb, avec le bain des Paquis. Alors c'est ce qui finalement délimite avec le lac ce grand quartier qui part de la gare Cornavin où on était tout à l'heure jusqu'au bain des Paquis. Alors il y a une vraie histoire, il se passe beaucoup de choses l'été.
Alors les bains de Paquis, c'est vraiment le haut lieu de rassemblement familial, je veux dire, notamment pendant les beaux jours. On peut rentrer
d'ailleurs. Ah bah c'est ouvert, tiens, allons-y.
C'est la carte postale de Genève.
Ouais, c'est
la carte postale, on a le lac, on a le jet qui est ouvert, on a la chance là. Et il m'arrive très souvent en été de venir là avec des amis.
Effectivement, donc on a plein de bateaux, plein de petits voiliers là qui sont juste à côté, hein, on pourrait presque les toucher.
Exactement.
Cette passerelle qui nous amène finalement au milieu du lac quasiment, hein, puisqu'il y a un espace comme ça qui est une avancée sur le lac.
On a une vue à 360 degrés qui nous montre... la beauté de Genève, vraiment la beauté de Genève. Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles je tombe de plus en plus amoureux de cette ville.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier finalement dans ce quartier, parce que à la fois il y a des artistes, des écrivains comme vous, on en a parlé, ce côté cosmopolite, cet espace comme ça ouvert sur le monde, et la carte postale, on termine avec la carte postale, donc c'est un quartier complet.
Complet, vraiment complet. On passe à la fois de ce... coin populaire que nous avons pu voir tout à l'heure avec les pimentières et puis les pharmaciens, on comprend très bien les codes, à ce coin très riche, très ouais, que tout le monde ne peut pas se permettre.
Voilà, avec ces signes qui sont juste en face de nous, sous nous aussi, puisqu'on est sur cette passerelle, des signes plutôt désagréables, hein, on va dire les choses, elles ne sont pas toujours commodes. Bon, voilà, merci beaucoup Max Loeb. Tous vos romans sont publiés par les éditions Zoé, 39 rue de Berne, et sortis en poche dans la collection Zoé Poche. Et puis, votre dernier roman, Confidence, a reçu fin avril le prix Kuruma. Je vous souhaite un bel été et je vous remercie infiniment de nous avoir fait faire cette visite.
Vous êtes les bienvenus à Genève quand vous voulez, pas dans la partie bourgeoise des paquis, mais plutôt dans la partie très chaude.
Merci Max Love. À suivre le dernier entretien du grand poète et auteur Édouard Glissant qu'il nous avait donné avant sa mort et l'hommage de Leclésio à Glissant. Ce sera après le tout nouveau titre de Laurent Voulzy. On part au Brésil. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde. Laurent Voulzy, Spirit of Samba sur votre radio francophone. On quitte le Brésil pour les Antilles avec le grand poète et auteur Édouard Glissant. Son dernier entretien avant sa mort, c'était dans la librairie francophone en 2010. Voici ce moment de radio poignant, suivi d'un hommage du prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio.
La librairie francophone estivale.
Édouard Glissant, vous êtes considéré comme l'un des plus grands écrivains francophones contemporains. Vous êtes né en Martinique en 1928 et toute votre vie, vous avez porté la créolisation, la mondialité et la poésie. Et vous dites que la poésie est la seule énergie capable de nous mettre en contact réel avec ce qui nous entoure.
Oui, parce que nous pouvons observer que dans le monde aujourd'hui, il y a ce que j'appelle des lieux communs, qui ne sont pas des vérités banales, mais qui sont des lieux où une pensée du monde rencontre une pensée du monde. Nous observons que quand nous énonçons, non pas une vérité, mais une idée que nous pensons être personnelle, nous nous apercevons 3, 4, 5 jours, 10 jours, un an après, qu'elle a été énoncée ailleurs, sous d'autres formes. C'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, le lieu commun, la pensée du monde qui rencontre la pensée du monde. Et mais nous n'avons pas pris encore conscience de ces rencontres, de ces flux, de ces nœuds, de ces mélanges qui se font entre sensibilités, pas seulement entre idées, mais entre sensibilités, entre intuitions dans le monde. Et il me semble que la littérature aujourd'hui, c'est l'expression même de cela. Et il nous faut apprendre à dépister cette sorte de solidarité dans la diversité, qui est l'origine de ce qu'on appelle une littérature monde.
Est-ce que ce monde, Édouard Glissant, justement, vous l'avez toujours imaginé comme étant une seule identité ?
Non, la croyance en une seule identité n'a pas toujours été néfaste. Elle a été nécessaire quand des communautés se sont constituées et qu'elles se constituaient en nations. Aujourd'hui, elle est néfaste, parce qu'elle oppose des nations à des nations, des communautés à des communautés. Elle ne permet pas l'ouverture, elle ne permet pas le mélange, elle ne permet pas ce qui fait l'espèce de diversité du monde dans laquelle nous nous sentons bien. Mais c'est pour cela que ce qui était avant peut-être un avantage est devenu néfaste. Il ne faut plus considérer le monde comme une unité. Il faut considérer le monde comme une multiplicité et il faut considérer que nous pouvons vivre avec cette multiplicité.
Et alors d'ailleurs, avec cette anthologie de la poésie du tout monde, vous avez sélectionné des poèmes de toutes origines en associant certains textes. Alors il y en a plein, hein, mais je vais en citer quelques-uns. Échille, René Char, Senghor, Mahmoud Darwish, Salas Tétier, qu'on connaît dans cette émission, le Libanais, Aimé Césaire, bien sûr. Et vous avez associé plusieurs morceaux de poésie différents pour ne faire qu'un seul poème. Et vous créolisez finalement la littérature, vous créolisez la poésie, là.
Ce n'est pas moi qui associe. Ce sont les textes qui se sont associés d'eux-mêmes, n'est-ce pas ? Si c'était moi qui avais associé, ce serait un peu artificiel.
En tout cas, ça marche, oui, c'est ça que vous voulez dire.
Mais ça marche. Mais ça marche. Je découvre moi-même, en faisant le livre, qu'il y a des relations, des communautés, des complicités que je n'avais pas soupçonnées et qui se révèlent à moi pendant que je fais le livre.
Avec des artistes, par exemple, vous associez des poésies avec des textes de Picasso, de Mohamed Ali. Est-ce que la poésie s'enrichit, d'après vous, au contact des autres arts, au contact des artistes ?
Oui, bien sûr, mais ce n'est même pas tellement cela. S'il y a tellement de voix diverses dans le livre, c'est que nous apprenons une nouvelle manière de fréquenter les expressions des humanités. Nous apprenons que les expressions des humanités relèvent toutes d'une conception du monde. Pas tellement d'une conception, d'une intuition du monde. Et l'intuition de Picasso rencontre l'intuition d'Achille, rencontre l'intuition d'un poète Bambara, rencontre, etc. Mais ça, nous ne le voyons pas. Et nous commençons à le découvrir, et c'est une nouvelle manière de lire la lecture du monde.
Est-ce que vous pensez que le monde, justement, est sur le chemin de la créolisation, du mélange des langues et des cultures ?
Absolument. Et la preuve, c'est que partout où cette créolisation, ce mélange des cultures, mais qui n'est pas une bouillabaisse, qui n'est pas un mélange absurde où les cultures se perdent, cette diversité qui est en même temps, cette multiplicité qui est en même temps une unité d'une certaine manière, mais pas une unité fermée, pas un enfermement. Partout dans le monde où ça se fait, il y a des volontés farouches d'enfermement qui prennent ces lieux comme cible. Partout où il y a créolisation, que ce soit à Sarajevo, à Beyrouth, à Port-au-Prince, partout à la Nouvelle-Orléans, partout où il y a eu créolisation, ou bien on prend comme cible ces endroits pour les massacrer, ou bien on les laisse pourrir dans le sous-développement et la catastrophe. Et c'est bien le signe qu'on a peur dans le monde. Les pensées uniques ont peur de ce phénomène de créolisation de mélange qui est, à mon avis, en marche et irrépressible.
Oh, pays, pur visage, mon noir pays, miroir brisé.
La librairie francophone.
Drapé de plaies. Nommez-les.
Édouard Glissant était un grand poète parce qu'il s'incarnait vraiment dans cette recherche. C'était quelqu'un qui était entier, comme d'autres poètes. C'était un vrai poète. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un de, pour moi, qui était un ami, mais aussi une sorte d'image respectable. Quelqu'un qui nous apprenait beaucoup, qui nous donnait beaucoup.
Et puis cet engagement aussi pour la littérature monde, la langue qui rassemble au-delà des clivages communautaires. On en parlait ensemble à Beyrouth il y a un an, mais Édouard Glissant était lui aussi dans cet esprit-là, évidemment.
Oui, parce que il pensait, je crois, que la poésie comme la langue créole avait 100 ans d'avance sur le langage que nous parlons chaque jour. C'est-à-dire qu'elle a déjà réalisé cet espoir de l'entente, cet espoir de l'échange et de la compréhension mutuelle. Édouard Glissant était quelqu'un aussi de très exigeant, c'est quelqu'un qui ne pratiquait pas une langue banale, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'importance aux mots. J'ai toujours pensé à lui comme à quelqu'un qui était de la grandeur de Wordsworth, le poète anglais, ou de Mahmoud Darwish, quelqu'un qui avait cette force incroyable qui faisait que il voyait au-delà de la quotidienneté, il voyait la réalité. Je crois que c'est quelqu'un qui va beaucoup manquer aux Martiniquais, beaucoup manquer aux Créoles, mais aussi à tout le monde.
Est-ce que vous pensez, Jean-Marie-Gustave Leclésio, comme Glissant, que le monde entier se créolise aujourd'hui ?
Je ne sais pas si créolisation c'est le bon mot, parce que la créolisation c'est un phénomène très particulier qui concerne uniquement les gens qui ont vécu cette expérience coloniale. Glissant a insisté beaucoup sur la douleur qu'ont connu les Antillais, qui est héritée de la traite et des mauvais traitements qu'on a fait subir à la population. Donc, plutôt que créolisation, moi, je pense que son idée du tout monde, c'est une idée merveilleuse. Parce que cela veut dire qu'on dépasse les clivages, on dépasse les frontières, on dépasse même ce sentiment national. Et pourtant, Glissant parlait beaucoup pour les Antillais, comme Césaire. C'est quelqu'un qui avait un message pour le peuple qui l'avait nourri. Il n'avait jamais oublié son origine, n'avait jamais cessé d'appartenir à ce qu'il décrit dans la Lézarde, cette petite rivière, ce monde très particulier et très restreint qu'est le monde antillais.
Voilà pour cet hommage à Édouard Glissant et ce témoignage amical de Leclésio pour la librairie francophone. Notre toute nouvelle séquence humour à présent. Je vous explique, chaque semaine, un humoriste francophone portera un regard sur nos sociétés et cultures francophones. Aujourd'hui, c'est une humoriste suisse qui a cette mission. Bonjour Marina Rollmann.
Bonjour Emmanuel.
Qu'est-ce que c'est la francophonie pour vous ?
Eh bien la francophonie, c'est une grande et belle famille qui unit la Suisse, la Belgique, le Québec et l'Afrique francophone dans une guerre sans merci contre le français de France. Sauf que malgré toute la bonne volonté contestataire qu'on déploie à grand renfort de nonantes et autres pifacs, les frontières sont poreuses et les expressions françaises parviennent à s'infiltrer dans notre parler. Alors pour moi, ça a commencé par petites touches il y a quelques années avec les « pour le coup » et « du coup », ces petits outils si pratiques pour dissimuler un début d'Alzheimer. Syntaxiquement, ces expressions n'ont aucune utilité reconnue d'après les dernières publications du CNRS et pourtant, ça ne les empêche absolument pas de se retrouver partout, sorte de hand spinner de la langue de Molière. Mais si ce n'était que ça, mais la France coloniale du verbe va plus loin, elle contre-emploie à tout va. Parfois, en effet, peut-être pour pimenter le jeu oratoire, moi je ne sais pas, j'ai pas la réponse, les Français décident comme ça, sans prévenir, de changer le sens des mots. C'est ainsi qu'on a vu apparaître, il y a quelques années, l'emploi du verbe « faire » pour dire « partir »,« voyager ». Vous voyez ce que je veux dire ?
Non, faire l'exemple. Quoi ?
L'été dernier, avec Michel, on a fait le Maroc en 2 semaines.
Ah oui.
Vous avez fait le Maroc, mais c'est dingue, parce que moi je croyais que ça existait avant, mais non, puisque vous l'avez fait, c'est dingue, c'est magnifique. Quand vous avez poussé l'Algérie, vous avez mis le... Waouh, oh, quel boulot. Et puis 32 millions de Marocains, comme ça, que vous avez dû faire en 2 semaines. Tu parles de vacances, chapeau. Parallèlement au verbe voyager, donc qui est devenu le verbe faire, le verbe cuisiner est lui devenu le verbe partir. Exemple, ce soir, pour l'anniversaire de Michel, oh, je sais pas trop, je pense que je vais partir sur une dorade. Mais où tu vas avec la dorade ? Au Maroc ! Faut qu'on arrête de dire n'importe quoi, hein, les mots ont un sens. Mais parfois les mots manquent et on les invente. Car oui, ma Suisse romande natale a beau avoir pour langue officielle le français, nous n'avons pas forcément la même psychologie que dans l'Hexagone, et non ? Et c'est pour ça que nous créons des régionalismes. Exemple, être déçu en bien, vous connaissez cette expression ?
Oui, je connais.
Oui. Eh ben oui, ça se dit en Suisse, d'une situation dont on pensait qu'elle allait... Et puis en fait, ça va pas mal, voilà. Déçu en bien, on a dû l'inventer, parce que cette séquence d'événements, oh non, ça va mal tourner. ah ben non, finalement c'est chouette, n'existait pas dans la langue française. La psyché française n'arrivait pas à se dire qu'il fallait créer des outils pour se parer à l'éventualité d'une issue inattendue et heureuse. Voilà. Alors moi parfois je suis incognito à Paris et tout à coup je lâche par mégarde un petit déçu en bien et il y a toujours une nana pour me répondre, eh ben c'est pas très français ça, dis donc. Eh ben non, parce que c'est optimiste, pauvre cloche. Mais évidemment, qui aime bien châtie bien. Si on s'échine pareillement à jouer des tours aux locuteurs français un peu tatillon, tout en étant prêt parfois à partir sur un flanc de courgette, complètement absurde, c'est qu'au fond la francophonie aime taquiner les Français, mais pas au point de s'en couper entièrement. Et finalement, ce sont pas les Suisses, les Belges ou les Ivoiriens qui résument le mieux tout ça, mais les Américains, auxquels après vous avoir souhaité un bon été, je laisse le mot de la fin. Alors à tous, au revoir et vive la France.
Vive la France, vive la Suisse.
Merci.
Thank you, Marina Wallman. Merci, Marina. Merci beaucoup. De la musique à présent avec un titre acoustique au piano joué dans notre studio. Voici la chanteuse québécoise Geneviève Morissette avec Me V'là pour la librairie francophone estivale.
Les spots s'allument, mon cœur me court après, je m'inventerais bien un rhume pour manquer le chaud. Paraît que si près le monde parle fort, mais j'entends juste mon âme qui crie, je trouve ses nerfs, je sens plus mon corps. La scène, c'est toute ma vie. Me v'là, me v'là tout nu devant vous. J'ai peur de tout, j'ai peur de nous, j'ai peur de moi surtout. Avant de venir ici, ta France Inter, j'aurais dû m'acheter de la confiance dans les boutiques de Vie Parfaite. Sur Saint-Laurent, il y a tout le temps des ventes, mais j'ai des trous dans les poches. Chante un peu comme on quête pour de l'amour, pour qu'on se rapproche. Mais votre silence, c'est une tempête. Me v'là, me v'là tout nu devant vous. J'ai peur de tout, j'ai peur de nous, j'ai peur de moi et surtout. Me v'là, oh, me v'là tout nu devant vous. J'ai peur de tout, j'ai peur de nous, j'ai peur de moi. Surtout.
Geneviève Morissette avec Me V'là dans la librairie francophone estivale.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada,
France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérade.
On vous fait vivre des lieux, on vous fait vivre les sons de ces lieux dans cette émission. Nous sommes dans un grand studio de Radio France pour ce club francophone. Cette séquence hebdomadaire, car chaque semaine nous donnons carte blanche à un auteur ou un artiste que l'on accompagne ou que l'on écoute et qui est fidèle à la librairie francophone depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est un écrivain très populaire. Son roman Charlotte a eu un succès considérable, décliné en plusieurs éditions. Les libraires n'ont vu que Charlotte pendant des mois. Bonjour David Fuenquinos.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Ouais,
je suis ravi de vous retrouver.
Bah, moi aussi. Merci d'avoir accepté en tout cas cet exercice. On vous a proposé ce que l'on n'entend presque jamais à la radio. Dans un cadre hors promotion, promotion d'un livre en ce qui vous concerne, vous avez eu le choix d'un invité, d'un sujet, d'un coup de gueule, d'une découverte. Commençons par votre invité, David.
Alors mon invité, on va pouvoir dire que je ne suis pas un auteur aigri puisque j'ai choisi un auteur plus jeune, plus beau et plus talentueux que moi. C'est ouais. François-Henri Désérable dont j'avais lu le
qui
précédent
rougit
roman,
maintenant, ouais.
Évariste. Il m'a fait lire un livre sur quelqu'un dont vraiment je ne m'intéressais pas du tout, ce Évariste, un mathématicien mort à 20 ans il y a ouais. quelques temps déjà. Et c'est toute son énergie littéraire, son humour et je pense que c'est un auteur extrêmement prometteur. Et il y a deux ans, il m'a raconté le sujet de son prochain roman. Ouais. Sortira à la rentrée littéraire.
Exact, c'est en avant-première hein, pour le
c'est
coup.
C'est très ouais. très rare que je dise ça, mais quand il m'a raconté l'histoire de son roman, j'ai été profondément jaloux parce que je trouve qu'il va nous le raconter. C'était vraiment très brillant. Donc je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire.
Bon, bonjour François-Henri Désérable.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 30 ans tout juste. On vous connaît effectivement grâce à votre roman Évariste, sorti en 2015, qui avait fait beaucoup parler de lui. Alors votre passion pour l'écriture, elle est née alors que vous échouez. Votre passion, c'est le hockey. Votre rêve, c'est d'avoir votre nom inscrit sur la Coupe Stanley, que les Canadiens connaissent bien, et ce rêve se brise. Et vous vous réfugiez dans la littérature.
Il se brise, oui, non. C'est-à-dire qu'à 18 ans, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, sinon que je voulais jouer au hockey sur glace. J'avais commencé à l'âge de 5 ans, j'y jouais 4 heures par jour, je voulais devenir joueur de hockey professionnel. Mon père était très heureux de ma décision, lui-même avait été
entraîneur.
Joueur de hockey et entraîneur. Et ma mère m'a dit, je veux bien que tu continues à jouer au hockey professionnel, mais dans ce cas-là, il faut que tu fasses des études. Et alors, j'ai cherché quelle était la fac à Amiens, là où j'habitais, la plus proche de la patinoire. Vous voyez à quoi tiennent les vocations. Il se trouve que c'était la fac de droit. Donc, je me suis donc inscrit en droit et 3 mois après mon inscription, la fac a été bloquée puisqu'il y avait une réforme en France, le CPE. Et donc, il y avait des contestations ouais, étudiantes ouais. et la fac d'Amiens était un des bastions de la contestation. Et j'étais désœuvré en dehors de mes 4 heures de hockey quotidiennes. Et j'ai poussé la porte d'une bibliothèque, la bibliothèque Louis Aragon à Amiens. Le nom de Louis Aragon m'était presque inconnu. J'ai ouvert un livre, Belle du Seigneur d'Albert Cohen.
Ouais.
Je crois que d'ailleurs.
C'est un point commun avec. Voilà.
À vous aussi
moi. Ouais, ouais, bien sûr.
Ah, c'est comme ça que vous avez voulu écrire,
bien sûr,
David Fuentes.
C'est le premier livre qui m'a vraiment profondément marqué.
Mais c'est vrai que les grands auteurs comme ça, ça ne vous effraie pas, François-Henri, parce que vous dites les grands auteurs ont placé la barre très haute, ainsi j'ai l'ambition de les égaler.
Non, alors
j'ai vu ça dans un article.
J'ai pas dû dire ça exactement.
Si, exactement, non, mais... ça, la même phrase.
Non, ouais, évite ça. Non. Il faut préciser quand même que François-Henri était dans le même lycée que Emmanuel Macron. Donc si vous voulez, il y a
le
une destinée
de la République
qui s'annonce
française.
Quand même flamboyante.
Et pour le coup, il aura sa plaque avant moi sur le lycée, c'est un peu foutu.
Pourquoi vous avez choisi comme sujet Romain Gary? Alors effectivement, on va en parler grâce à François-Henri Désérable. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous, David, chez Romain Gary?
Moi, j'ai pas écrit même sur Romain Gary, même si mon roman Les Souvenirs avait été vraiment marqué par le projet autobiographique ou faussement autobiographique de La Promesse de l'Aube. Et c'est un auteur qui moi, en tout cas, m'a donné le goût de la littérature à la même époque que Albert Cohen. Ce sont de grands stylistes, mais qui savent aussi raconter des histoires. Et c'est vrai que je suis allé sur ses traces, notamment à Vilnius. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, on était à l'île de Ré ensemble et il me raconte le sujet de son prochain roman. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement le livre que j'aurais dû écrire.
Alors, oui, parce que. Alors, vous êtes allés tous les deux à Vilnius.
Non, alors pas en même temps.
Pas en même temps, voilà, non, mais je raconte, attendez.
Tout à fait. Voilà, tout à fait.
Vous êtes allés. David, de votre côté, un jour, ouais. vous allez à Vilnius et vous arrivez à Vilnius devant l'immeuble où a habité Romain Gary. Et c'est à partir de là que vous avez l'idée de ce livre, car il y a une histoire incroyable qui tourne autour d'un homme qui s'appelle Monsieur Piekielny, c'est ça ?
Oui, c'est ça ?
On le prononce comme ça. C'est le titre de votre prochain roman, Un certain Monsieur Piekielny. Et cet homme-là, en fait, c'est son voisin quand il était enfant. Racontez.
Alors, Romain Gary, il est né Roman Katsev en 1914 à Vilnius. Et la mère de Romain Gary lui disait toujours, tu seras un grand homme, tu seras un grand écrivain, tu seras ambassadeur de France, etc. etc. Elle lui assignait un destin.
Et tout le monde se moque.
Tout le monde se moque des prétentions de cette Mina Katsev, la mère de Romain Gary. Sauf un petit homme, monsieur Piekielny, vous l'avez très bien dit, et Piekielny, ça veut dire infernal en polonais, et Gary raconte que cet homme n'avait rien d'infernal, qu'il ressemblait à une souris triste, qui avait presque peur de son ombre. Et ce Piekielny, un jour, a coincé le petit Roman dans la cage d'escalier de son immeuble, et lui a dit « Écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là, ouais. Je pense que tu vas bel et bien devenir un grand homme, alors est-ce que tu peux me promettre que lorsque tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Paulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny ?»
Et c'est ça qu'il va faire, Romain Gary, c'est qu'à chaque fois qu'il va s'adresser devant les plus grands de ce monde, devant les décideurs, les chefs de gouvernement, tout le monde, quand il est dans une émission très importante avec des millions d'auditeurs, il va citer cet homme-là.
Exactement. Alors Gary raconte dans la presse de l'Aube que devant la reine d'Angleterre ou devant le général de Gaulle, il a prononcé cette phrase qui paraissait un petit peu mystérieuse.
Bon, voilà, première découverte culturelle hein, pour vous, David Fonkinos, avec François-Henri Désérable et ce livre qui est à paraître au mois de septembre, début septembre. Il y a autre chose que vous avez souhaité écouter, c'est un peu de musique, avec la Suissesse Sophie Unger. On va écouter un extrait de Vals für Niemand et vous nous expliquez juste après.
Keine Enttäuschung, kein einziges Mal, aber dir sei alles egal. Niemand siehst du, ich wachse nicht mehr, meine Hände sind Füße, niemand schau her, bald bin ich nichts und das, was dann bleibt, ist deine Wenigkeit. Niemand, was, was bist du?
Sophie Unger, le choix de David Fonkinos aujourd'hui. Pourquoi Sophie Unger?
La réponse est dans ce que vous venez d'écouter. C'est d'une beauté absolue. Et moi, je suis obsédé par la langue allemande. C'est vraiment, et la culture allemande d'une manière générale. Je trouve que la langue allemande est la plus belle du monde. Et à chaque fois, on croit que je me moque des gens quand je dis ça. Je la trouve incroyablement sensuelle et érotique. Et au lieu d'argumenter pendant des heures, maintenant, je leur mets cette chanson et je leur fais écouter la beauté de cette chanson. Et d'ailleurs, je suis tellement obsédé par cette chanson que je l'ai mise entièrement dans mon prochain film. Alors, mes producteurs, au début, ont dit, mais t'es sûr? Parce qu'en plein milieu d'un film comme ça, français, 2 minutes d'une chanson allemande, oui, elle est intégralement dans mon prochain film. Et moi, elle m'accompagne, elle me calme. Mm-hmm. Et je la trouve en plus extrêmement sensuelle.
Il sort quand le prochain film? On fait pas de promo ici, mais là, bon.
Non, on fait pas de promo, mais en même on a un petit clin d'œil presque librairie francophone, puisque c'est un casting très francophone. Ouais. J'ai un acteur suisse, Bruno Todeschini. J'ai une jeune actrice belge qu'on va découvrir, Dara Tombroff. Et j'ai l'extraordinaire Anne Dorval, la québécoise.
Ah, génial!
Magnifique. Qui joue la meilleure amie de Karine Viard. Donc voilà.
Karine Viard, ouais.
Voilà, avec Karine Viard, rôle principal. Et le film s'appelle Jalouse et sortira en novembre prochain.
Vous avez une mission, je vais faire comme Monsieur Piekielny, vous êtes chargé de parler de la librairie francophone pendant votre promo au moins une fois.
Mais je fais c'est toute ma vie, je ne fais que ça, je ne suis que librairie francophone.
Oui, non, mais ça, les auditeurs le savent, les nôtres.
Mais... C'est vrai que quand on est auteur, on est de toute façon en permanence confronté à la librairie et à la francophonie.
Je parle de l'émission, moi. Bref,
oui, j'avais compris.
Vous en sortez bien. David Fonkinos est rédacteur en chef du Club francophone aujourd'hui. Dans cette séquence carte blanche, il y a une petite règle. Les invités en plateau doivent réfléchir à 3 axes. Donc, présenter une découverte culturelle, David vient de le faire, un livre, un disque, un film. Parler d'un engagement citoyen qu'il porte et pousser un coup de gueule en toute liberté, bien sûr. Le coup de gueule qui François-Henri tient.
Ah, je commence par mon coup de gueule.
Oui.
J'y avais pas réfléchi, mais j'aimerais bien pousser un coup de gueule contre les coups de gueule que postent les gens sur Facebook. Sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en général, il y a eu les élections présidentielles en France il n'y a pas si longtemps, et beaucoup s'improvisent politologues, et j'ai l'impression qu'il y a une certaine posture de l'indignation, une certaine complaisance dans le coup de gueule aujourd'hui, donc j'aimerais bien pousser un coup de gueule contre les coups de gueule.
Très bien, coup de gueule, David Fonkinos.
Je suis contre ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai, alors moi...
Oui, parce qu'il est très axé sur les réseaux sociaux, hein. David,
Twitter, j'aime bien. Ouais, je viens de me remettre sur Facebook, mais c'est vrai que j'avais un peu quitté tout ça. Non, par contre, c'est vrai que je veux pas déprimer François-Henri, mais mon coup de gueule, d'une manière générale, c'est la surproduction littéraire, parce que là, on est au milieu de l'été, on profite de la plage, du soleil, mais voilà, la rentrée littéraire, ça va être encore un carnage, parce qu'il va y avoir 600 ou 700 romans, donc on va en parler d'une trentaine, 40, 50 maximum, mais je trouve ça difficile, parce que pour beaucoup de gens, le rêve d'une vie, c'est d'écrire, c'est d'être publié, et puis il y a pire finalement que de ne pas être publié, il y a cette indifférence générale, c'est-à-dire on est publié, il ne se passe rien.
Il y a des pays où on publie pas assez aussi, où il n'y a pas cette liberté.
Et bien qu'ils viennent prendre nos auteurs.
Non mais David.
Non mais c'est pas pour moi je trouve ça magique une société et puis ouais. D'abord c'est tellement excitant. Donc là je transforme mon coup de gueule en positivisme mais c'est vrai que je trouve ça magnifique et tout le monde s'écharpe pour les prix littéraires et toute la vie culturelle s'articule sur le monde littéraire, c'est magnifique.
Bah oui.
Je dis juste que ça peut être extrêmement humiliant, c'est violent pour beaucoup d'hommes et de femmes qui écrivent et voilà, sans spécialement avoir l'ambition d'être lu par le plus grand nom mais simplement d'exister un tout petit peu.
Un engagement.
David.
François-Henri qui vous désigne.
Moi, c'est un engagement. Alors, c'est vrai que je participe à beaucoup d'associations, mais mon engagement, en tout cas, en termes de présence physique, le plus souvent, c'est d'aller voir les lycéens, parce que c'est vrai que quand on est auteur, on se rend compte la moyenne d'âge assez élevée dans les salons du livre, dans les librairies, et voilà, on se rend bien compte que c'est de plus en plus rare de voir les jeunes auteurs. Donc moi, j'ai eu cette chance inouïe pour mon roman Charlotte d'avoir eu le Goncourt des lycéens. Et depuis, je passe un maximum de temps voilà, dans les lycées, rencontrer les classes, rencontrer les jeunes élèves, faire des ateliers d'écriture. Même si ça n'intéresse pas tout le monde dans la classe, il y en a 4 ou 5 qui après vont avoir
bien
envie
sûr,
de
ouais,
lire
ouais.
Et d'être accompagnés. Moi, ça a changé ma vie, la littérature.
François-Henri Désérable.
Moi, je vais aussi beaucoup dans les lycées comme David, mais c'est peut-être pour compenser le temps que je n'ai pas passé à l'école quand j'étais jeune, puisque je passais tout mon temps sur la glace à jouer au hockey. Mon engagement, c'est peut-être d'essayer de faire découvrir ce sport formidable qui est très connu au Canada, le hockey sur glace, très peu dans d'autres pays de la francophonie, sport collectif le plus rapide du monde. Et je suis très heureux de pouvoir en parler lorsque j'en ai l'occasion.
Allez, on termine très vite avec une petite découverte culturelle pour vous, François-Henri.
Alors, c'est la rentrée littéraire. On a la chance de recevoir les livres un peu en avance et j'ai reçu un livre d'un ami, donc tant mieux, qui est formidable. Ça s'appelle « Un amour d'espion » de Clément Bénèche. C'est
qu'on avait reçu d'ailleurs pour un été slovène, c'est
exactement,
ça, non ?
Exactement, un été slovène qui était son premier roman. Et le prochain, c'est une enquête qu'il mène à New York et ça parle aussi des réseaux sociaux.
Voilà, il faut suivre les jeunes auteurs, évidemment. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette carte blanche dans ce club francophone et dans ce grand studio de Radio France où on fait des lectures, où il y a des fictions. Vous n'avez jamais eu de fiction à la radio ?
On m'a proposé plusieurs fois, mais je ne l'ai pas fait.
Bon, voilà, encore. Vous y êtes presque là, en étant ici.
Ouais.
François-Henri Désérable, votre nouveau roman, Un certain Monsieur Piekielny, sortira chez Gallimard à la rentrée. Et David Fuenkinos, Charlotte et bien sûr Le Mystère Henri Pic sont aussi publiés chez Gallimard. Merci beaucoup David. Et on termine avec le bonus du club et deux histoires personnelles francophones racontées par nos invités, histoires que je découvre en même temps que vous tous. À vous l'honneur, David Fuenkinos. Quelle histoire, quel voyage, quelle histoire étonnante, ce que vous voulez.
Je vais raconter un voyage que j'ai fait en 2004. J'étais invité au Brésil et pour le Salon du Livre de Rio et la France était invitée d'honneur. Donc j'étais tellement heureux, j'étais un jeune écrivain. C'était un de mes premiers voyages et en plus dans la délégation, il y avait Michel Butor que j'avais lu et que j'admirais tellement. Je connaissais par cœur la modification. Je me suis retrouvé avec lui dans un minibus et on devait faire une conférence tous les deux. Le thème était le surréalisme, donc c'était totalement surréel. Pendant la conférence, alors que je l'ai laissé parler pendant 99% du temps, je suis jamais intervenu, on m'a demandé « qu'est-ce que pour vous le surréalisme ?» Et j'ai dit « c'est exactement ça, être à Rio avec Michel Butor ». Et j'ai été invité une semaine dans un superbe hôtel à Rio, juste pour cette phrase.
Très bien, François-Henri Désérable.
Alors moi, il se trouve que c'est aussi en Amérique du Sud. Je viens de passer 6 mois en Amérique du Sud sur les traces de Che Guevara. J'ai refait le voyage qu'il a fait à 22 ans en moto. Et je suis donc passé par l'Argentine, le Chili et la Bolivie, entre autres. Et en Bolivie, je me suis retrouvé à Potosi, qui est une des villes les plus hautes du monde, plus de 4000 mètres d'altitude. Je rencontre un chauffeur de taxi qui me dit « Écoute, je suis également mineur. Est-ce que ça t'intéresserait de descendre dans la mine avec nous ?» Et la mine se trouve sous une énorme montagne, le Cerro Rico, qui est exploité depuis à peu près 500 ans. Et j'ai passé 12 heures avec les mineurs à Potosi. Et ce sont des conditions de travail qui sont extrêmement difficile. J'ai ramassé un petit caillou dans la mine qui est aujourd'hui posé sur ma table de travail. À chaque fois que je trouve qu'il est difficile d'écrire, je regarde ce petit caillou et je me dis qu'en fait, être auteur, c'est sympa.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et
c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et Leïla Kourousselikoua en France, avec les équipes de la RTBF, de la RTS, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation, Christophe Imbert avec Pierrick Charles, à la technique et Thierry Dupin, la prog musicale. La semaine prochaine, nous serons à Montréal, émission en déambulation à l'occasion des 375 ans de la ville, avec toutes nos séquences, Albert Uderzo pour un entretien, un reportage au Mucem à Marseille, de l'humour avec Boukhar Diouf et le club francophone sur la place des festivals avec Tikenja Fakoli et Karim Ouellet. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.